savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Savoir Plus. Cette semaine, on s'intéresse au collège Adulphe de Legorgue de Courcelles-lès-Lens, dans lequel 9 élèves de 3e participent cette année au programme d'études intégrées de Sciences Po Lille. Ce programme créé en 2007 a été au départ conçu comme une préparation spécifique au concours commun d'entrée en première année de Sciences Po, mais aussi comme un moyen de permettre aux élèves issus d'un milieu social modeste d'envisager la poursuite d'études supérieures de haut niveau, quelles qu'elles soient. Pour ce programme, les collégiens de Courcelles-lès-Lens doivent travailler sur un thème en rapport avec l'aménagement du territoire, et c'est tout naturellement qu'ils ont décidé de s'intéresser à l'écoquartier de la Marlière, un quartier récemment sorti de terre à Courcelles-lès-Lens, mais un quartier inachevé par rapport au projet de départ, car ce projet ambitieux d'écoquartier prévoyait sur 68 hectares la construction de plus de 1000 logements, mais aussi la présence d'une école, d'un béguinage et l'implantation de commerces et d'équipements publics. Si le volet logement a été en partie réalisé, les promesses de construction d'une école de 22 classes, de commerce et de services n'ont pas vu le jour, à l'exception notable de la création d'une épicerie de quartier par un couple d'habitants. Par ailleurs, d'autres problèmes de conception sont apparus, des rues trop étroites, l'absence de trottoirs par endroit, ou encore des bacs à ordures qui débordent régulièrement, entre autres. Et pourtant, tout n'est pas noir dans cet écoquartier, puisque l'écoquartier de la Marlière à Courcelles-lès-Lens a reçu un prix pour la qualité de son aménagement paysager. Mais les relations entre la commune et la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin d'une part et le maître d'ouvrage, Nexity Foncier Conseil d'autre part, ont fini par se dégrader, avec en filigrane la pression des habitants déçus, des habitants qui travaillent pour beaucoup en métropole lilloise et qui étaient à la recherche d'un cadre de vie idéal. Les tensions entre les différentes parties ont eu pour conséquence l'an dernier l'abandon de l'extension de l'écoquartier qui prévoyait la construction de 533 logements supplémentaires par le maître d'œuvre Nexity. Cependant, les travaux d'aménagement vont se poursuivre avec notamment la construction d'une voirie piétonne permettant de raccourcir le trajet d'un kilomètre et demi entre ce quartier et l'école Sion. C'est donc sur un vrai cas d'école que planchent depuis la rentrée ces 9 élèves de 3e du collège Adulphe de Legorgue de Courcelles-lès-Lens, avec pour objectif de proposer des pistes d'amélioration pour ce quartier. Prise de rendez-vous, élaboration des questionnaires, entretien, tout y passe. Un projet qu'ils défendront au mois de mai au conseil départemental du Pas-de-Calais face à d'autres collèges participants. Nous avons interrogé Corinne Huillier, principale adjointe du collège de Legorgue de Courcelles-lès-Lens.
Alors, objectif aujourd'hui de la séance, il faut qu'on réalise les questionnaires qui vont nous servir à interviewer les différents acteurs du projet. Donc on avait déjà établi, il y a 2 semaines avant l'intervention de Mme Bourgie, on avait établi des groupes. Donc il y avait Cassie, Sarah et Walid qui devaient établir le questionnaire pour Monsieur le maire et solliciter un rendez-vous. C'est fait ou pas ?
On attend le questionnaire.
Comment ?
On attend le questionnaire.
Oui, mais est-ce que le rendez-vous, vous l'avez déjà fixé ? Parce que ça, il faut formaliser, il faut que vous vous rendiez en mairie pour prendre un rendez-vous. Hein. D'accord ? Bon, il faut que l'interview ait eu lieu... Après les vacances de Noël, il faut qu'on ait tout. Hein. D'accord ?
Je prends le rendez-vous après.
Donc, tu prends le rendez-vous au plus vite. Matteo Neyla, vous devez vous occuper d'aller rencontrer le président de l'association La Marlière, j'en suis fière.
Je lui ai envoyé un message et...
Alors ?
Il peut pas nous rencontrer, mais il peut répondre par mail.
Bon. On fera sous forme de mail, alors. C'est... Ok, très bien. Mariam Sarah, vous, c'était les commerces.
Corinne Huillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la principale adjointe du collège de Legorgue à Courcelles-lès-Lens. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ce programme d'études intégrées proposé par Sciences Po Lille ?
Donc, c'est un programme sur lequel nous sommes inscrits cette année et qui est animé par les enseignants et qui permet aux élèves de travailler avec l'équipe de Sciences Po sur une thématique qui est retenue par Sciences Po cette année, et la thématique retenue est l'aménagement du territoire. Nous sommes une commune sur laquelle un aménagement a été fait, c'est l'écoquartier de la Marlière. écoquartier de la Marlièvre qui existe depuis quelques années et sur lequel nos jeunes collégiens vont pouvoir faire un travail d'étude, l'installation de l'écoquartier, son développement et la situation aujourd'hui de cet écoquartier.
Est-ce que c'est la première fois que le collège Dolgorg participe à ce programme ?
Oui, tout à fait. Nous ne connaissions pas précisément ce programme, mais nous avons pris contact cette année avec Sciences Po Lille et puis nous avons décidé avec nos enseignants et nos collégiens volontaires de participer à ce programme. 9 élèves se sont portés volontaires pour ce travail. Ce travail qui va être réalisé sur l'écoquartier, ce sera un travail qui va être fait en dehors des heures de classe, qui va leur permettre d'étudier leur commune et ce qui s'est passé dans l'écoquartier de la Marlière. La commune de Courcelles-lès-Lens est ravie de ce projet, puisqu'elle va permettre à des jeunes collégiens de travailler sur tout ce qui se passe dans la commune. On va consulter les archives de la commune. Et donc, c'est un travail de jeunes collégiens. Et donc, en partenariat avec la municipalité, donc. Et puis, les enseignants, évidemment, qui ont été bénévoles et volontaires pour se lancer dans ce projet.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi sur cet écoquartier de la Marlière ? Vous l'avez dit, il est assez récent, hein, une dizaine d'années ?
Oui, c'est un quartier récent et qui a un quartier assez important et qui a posé quelques problèmes dans la commune puisque la commune est passée d'une taille à une taille supérieure et c'est un quartier assez, je vais dire, imposant et d'où des difficultés d'intégration, des difficultés mais aussi une valorisation de la commune. Donc tout un travail qui est intéressant pour des jeunes puisque c'est leur lieu de vie. Donc c'est un travail de recherche sur son lieu de vie et qui va les amener aussi à développer leur ambition scolaire puisque l'objectif, c'est de rapprocher ces 9 collégiens d'une grande école comme Sciences Po et leur permettre d'envisager l'avenir avec une ambition plus importante.
Alors, vous m'avez dit qu'il s'agissait de 9 élèves volontaires. Justement, est-ce qu'il y a eu plus de volontaires au départ ? Est-ce qu'il y a eu une sélection ? Comment ça s'est passé ?
Le groupe de travail ne peut pas être supérieur à 10 élèves, puisque en fait, Sciences Po, dans leur projet, c'est environ 10 élèves. Donc, on a fait un travail sur la motivation et c'est ceux qui étaient, semble-t-il, les plus motivés. Voilà.
Donc des élèves de troisième, de différentes classes de troisième du coup.
Oui, des élèves de plusieurs classes de troisième.
Alors pour l'instant, comment se déroulent les séances de travail ? À quel rythme ?
Donc d'abord, on a réuni les familles pour les informer du projet et pour qu'ils puissent participer avec nous à ce lancement du projet. Et c'est une séance hebdomadaire pendant leur pause méridienne. Donc le mardi, on déjeune un peu plus vite et on va ensuite travailler sur l'écoquartier de la Marlière.
Quel bilan faites-vous pour l'instant de ce programme d'études intégrées et de ces séances ? Quel est l'apport, selon vous, de ce programme pour ces élèves ?
Une grande motivation, un premier projet et puis une ligne de plus sur son CV. Voilà. Et une implication dans un projet qui n'est pas un projet strictement du collège, mais qui rejoint une grande école et d'où une forte mobilisation des jeunes et de leurs enseignants. Pas d'absence, pas de jeunes qui viennent. Donc une grande motivation de ces collégiens.
Alors la prochaine grande étape pour ce programme, ce sera le 17 février 2020 à Sciences Po. Qu'est-ce qu'il va se passer ce jour-là ?
Alors une présentation de l'objectif, qu'est-ce qui va être fait sur cet écoquartier. Ensuite, on aura tout un travail à l'interne pour développer notre projet. Et il y aura une présentation et une restitution en mai du travail de recherche. C'est un travail de recherche effectué par nos collégiens.
Et c'est une sorte de soutenance qui va être assez impressionnante pour eux devant le conseil départemental.
Tout à fait. Donc, c'est un premier oral. Et ce ne sera pas un premier oral de bac, mais ce sera un premier oral de brevet devant, c'est vrai, une assemblée qui va être importante. Et d'où, c'est vrai, une grande valorisation de ces élèves. Et puis, un travail à l'oral qui va être, je pense, de qualité.
Corinne Hudier, vous envisagez éventuellement de pouvoir justement réinscrire le collège l'an prochain dans ce programme d'études intégrées de Sciences Po ?
Tout à fait. Nous sommes, on va dire, très intéressés par ce projet et nous souhaitons reconduire celui-ci l'année prochaine.
Est-ce qu'un suivi des élèves qui ont participé à ce programme après la troisième est d'ores et déjà prévu ?
On n'y a pas encore réfléchi, mais très certainement. Je pense qu'on va les solliciter pour revenir l'année prochaine pour présenter à leurs camarades le travail qu'ils ont effectué cette année. Hein, puisque l'année de seconde, il y a des périodes où ils pourront se libérer et venir présenter à leurs camarades ce qui a été présenté cette année. Mais bon, l'année prochaine, comme la thématique est différente, eh bien, ça sera un nouveau projet et donc on en est ravis.
À l'instant, Corinne Hullier, principale adjointe du collège Delgorgue de Courcelles-lès-Lens, qui répondait à nos questions. Et dans ce reportage, est évoquée la présence d'Aïcha Bourdi, qui fait partie de l'association Océal, association courcelloise, et qui habite également le quartier de La Marlière à Courcelles-lès-Lens. Madame Caron est professeure d'histoire-géographie au collège Delgorgue de Courcelles-lès-Lens. Elle nous explique comment elle a découvert ce programme d'études intégrées de Sciences Po. Et ensuite, vous entendrez également Cassie, une élève de 3e qui participe à ce programme.
Alors, c'est un projet que je suis de loin depuis longtemps par l'intermédiaire de collègues qui y ont participé. Et là, cette année, c'est le professeur principal de cette 3e, Monsieur Oumahi, avec qui on pilote le projet, qui a voulu intégrer sa 3e. Dans ce projet pour créer une bonne dynamique dans la classe.
Alors, comment se passent les séances jusqu'à présent ?
Alors, jusqu'à présent, on se retrouve le mardi de 11h30 à 13h30, à 12h30, pardon. Donc, c'est des heures supplémentaires par rapport à leur emploi du temps. Et on a d'abord décidé du sujet sur lequel on allait travailler, donc en liaison avec l'aménagement du territoire. Ils ont décidé de choisir un aménagement du territoire très proche de leur quotidien, donc en l'occurrence l'écoquartier de la Marlière, de Courcelles-lès-Lens. Et heureusement, on avait aussi proposé la plateforme multimodale de Dourges, mais Sciences Po a sélectionné le sujet sur la Marlière. Et ils étaient très contents d'ailleurs, parce qu'ils préféraient travailler sur ce sujet-là que sur la plateforme. Et donc là, pour l'instant, c'est un travail de déblayage. Donc, premier temps, on a vraiment cherché à définir ce qu'était un écoquartier, la définition géographique de ce qu'était un écoquartier. Et surtout, on a mis en place une problématique qui était, est-ce que le projet a tenu ses promesses ? Puisque on voit bien que dans la ville, le projet qui a été défendu n'a pas forcément été réalisé. Tous les enjeux n'ont pas été atteints. Donc, on travaille autour de cette problématique. Voilà.
Alors justement, quand vous dites que tous les enjeux n'ont pas été atteints, c'est quels enjeux par exemple ?
Alors il y a beaucoup d'enjeux qui ont été atteints. Justement, on ne veut pas être dans une démarche politique ou critique, c'est pas du tout la démarche qu'on veut avoir. Nous, c'est une démarche géographique. Donc on a vu par exemple par rapport aux enjeux environnementaux, l'éolienne qui a été mise en place. Enfin voilà, il y a quand même des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. La volonté de favoriser la mixité sociale, où vraiment on a voulu mettre en œuvre tout ça dans la commune. Mais il y a une grosse limite, c'est le fait qu'il y avait des commerces, il y avait des services qui devaient être installés dans le quartier, et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre pendant nos recherches. Voilà.
Voilà. Et comment sentez-vous les élèves par rapport à ce projet ? Est-ce qu'ils sont toujours motivés ? Est-ce qu'ils réfléchissent déjà à la soutenance au mois de mai ?
Ouais, alors ça a vraiment créé une super dynamique dans la classe. On sent que cultiver leur ambition, ils prennent confiance en eux, ils sont vraiment acteurs à part entière de ce projet qui mène. C'est eux en fait qui vraiment impulsent chaque séance. Aujourd'hui, en gros, on va répondre à quelques questions. Ça crée une très très bonne dynamique dans la classe pour la soutenance de mai, ils ont déjà mis en place, puisque l'oral doit être très différent de l'écrit, donc on va d'abord s'occuper de rédiger leur petit mémoire, mais pour l'oral, ils ont prévu de mettre ça en forme sous une espèce de jeu de rôle, où ils incarneraient une espèce de principe géographique, une notion géographique chacun. Voilà, donc on en est vraiment tout au début, mais pour l'instant, ils sont sous la forme d'un jeu de rôle. Voilà, on verra bien le rendu final.
Et que pensez-vous justement de cette initiative de Sciences Po Lille qui essaye justement de faire en sorte que des élèves de conditions modestes puissent justement avoir plus de chances d'accéder à des études supérieures, voire prestigieuses?
Je considère que c'est vraiment très, très bénéfique, surtout dans un collège comme à Courcelles-lès-Lens en éducation prioritaire, où il y a une espèce d'autocensure de l'élève qui fait que l'élève ne va pas oser dire « j'aimerais faire des études supérieures ». Donc je trouve que c'est très bien pour libérer l'élève et pour cultiver son ambition et voir concrètement ce que sont des études supérieures. Puisque là, ils ont déjà eu un avant-goût en allant au conseil départemental mercredi il y a 3 semaines, où ils ont vu concrètement, ils ont rencontré des étudiants de Sciences Po. Un étudiant Sciences Po est tuteur et est déjà venu il y a 2 semaines pour les aider dans leur projet. Donc c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable pour eux. Et donc je pense que ça les aide à se projeter.
En tant que maire, avez-vous eu des projets pour l'amélioration de la Marlière? Après, avez-vous conservé les archives de la Marlière? Si oui, est-ce qu'on peut s'en servir? Et avez-vous contacté Next City pour les problèmes rencontrés pour les 800 habitations sur 1300 qu'ils ont créés? Je vois plusieurs problèmes.
Ouais, c'est bien. Alors bonjour, donc je m'appelle Cassie Boaulani, je suis dans le collège Adulphe de Logorgue en 3e et je suis une participante du projet Sciences Po Lille.
Comment avez-vous eu connaissance de ce projet?
C'est nos professeurs qui sont venus nous présenter le projet et demander si on voulait y participer.
Et vous avez répondu oui tout de suite?
Oui, on s'est concerté avec nos camarades et on était partant pour le faire.
Comment avez-vous eu l'idée justement de travailler sur l'éco-quartier?
En fait, on avait 2 choix, donc c'était soit l'éco-quartier de la Marlière ou la centrale à Dourges. Et vu que la Marlière c'est dans notre ville et qu'il y en a qui y habitent, on voulait en savoir plus sur la Marlière.
Comment ça se passe les séances jusqu'à présent?
Ça se passe bien, on découvre plein de nouvelles choses sur la Marlière, puis ouais, on travaille dessus. Là, on a fait des groupes pour poser des questions aux maires, aux habitants, aux commerçants, pour leur ressenti par rapport à l'arrivée de la Marlière dans la ville.
Est-ce que ça vous donne justement l'idée de poursuivre des études plus tard? Est-ce que vous aviez déjà l'envie de poursuivre des études supérieures ou est-ce que c'était pas quelque chose qui vous était venu spontanément à l'esprit?
Non, j'ai toujours voulu faire des études supérieures après mon bac. Donc ouais, des études supérieures.
À quoi vous vous destinez?
Moi, je disais aux études vétérinaires, donc bac plus 8 et après...
Donc grosse ambition quand même.
Oui, voilà.
Alors le fait de rencontrer aussi des étudiants de Sciences Po, c'est enrichissant pour vous?
Bah oui, parce qu'ils nous apprennent à parler à l'oral déjà, vu qu'ils ont beaucoup d'expérience et puis on apprend leur parcours, c'est intéressant.
Au niveau des élèves, vous vous connaissiez tous au départ ou pas du tout?
Oui, bah on a soit été en primaire, on a toujours été ensemble, donc on est un bon petit groupe. Voilà.
Et vous préparez déjà alors la soutenance qui va se dérouler au conseil départemental du Pas-de-Calais au mois de mai. Comment vous appréhendez cette soutenance? Est-ce que ça vous fait peur?
Au début ça nous surprend toujours. Mais après là on a été présenté déjà au conseil départemental à Arras. Ça s'est super bien passé, donc on voit à peu près à quoi on va s'attendre et c'est super.
Donc vous avez plutôt envie, vous êtes pressé justement de faire cette soutenance finalement.
Ouais, voilà, on est pressé, puis aussi pour la fin, parce qu'il y a un voyage à gagner, etc. Donc on est partant.
Très très bien. Et qu'est-ce que vous avez appris alors jusqu'à présent sur l'éco-quartier que vous ne saviez pas?
On a appris des choses, les choses qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites, puis les habitants, on a appris... la vie des commerçants, etc. Ce que ça a amené sur la ville.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris là-dedans?
C'est les projets qui n'ont pas été aboutis. Parce que c'était un très très gros projet de la part de Next City. Et vu que ça n'a pas été abouti, voilà, y a plein de choses qui n'ont pas été abouties.
Comme les commerces, etc.
Ouais, les commerces, l'école de 22 classes qui devait être faite. Puis plein de choses comme ça.
Très bien, merci beaucoup.
De rien, merci.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Voilà, concernant ce reportage sur le collège, Adulphe Delegorgue de Courcelles-lès-Lens, qui participe au programme d'études intégrées de Sciences Po Lille, avec comme thème l'aménagement du territoire et le cas spécifique de l'écoquartier de La Marlière, situé lui aussi à Courcelles-lès-Lens. Il faut savoir que l'an dernier, c'est le collège Langevin Wallon de Grenay qui avait été récompensé pour son travail sur la création d'une salle de spectacle connectée, avec à la clé un voyage offert à ses élèves. Voici Julien Clerc sur Radio Plus.
Le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux, les champs d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux. That's why this melody.
Gens d'ici.
bien clair avec This Melody sur Radio Plus.
Rejoignez Radio Plus sur Facebook. www.facebook.com/radioplus62. Radio Plus, Radio Plus, la fréquence de l'Artois.
Une petite piqûre de rappel. À présent, il y a quelques semaines, nous recevions Laurine Lefebvre qui est atteinte d'un cancer du sein triple négatif, une des formes de cancer les plus compliquées à soigner. Elle a lancé depuis quelques mois une cagnotte afin de pouvoir réaliser son rêve, entre guillemets, pouvoir bénéficier d'une thérapie innovante pour éliminer son cancer en Allemagne. Une thérapie extrêmement coûteuse, puisqu'elle coûte 95 000 euros. C'est le dernier espoir pour cette institutrice de métier qui habite à Courrières après avoir tout essayé en France.
Laurine Lefebvre est institutrice. Elle est atteinte depuis plusieurs années d'un cancer du sein triple négatif métastasé, qui est un des cancers les plus difficiles à soigner. D'après l'Institut Marie Curie qui l'a suivi, si la moitié de ce type de cancer répond bien au traitement de chimiothérapie classique, l'autre moitié résiste au traitement. Et si un nouveau traitement vient d'être autorisé en France à titre expérimental, Laurine Lefebvre n'y a pas droit. Elle a fini par trouver une solution en Allemagne, très onéreuse, près de 100 000 euros, et a décidé de lancer une cagnotte. Le rêve de Laurine, c'est tout simplement de pouvoir vivre. Je lui ai d'abord demandé comment elle avait appris qu'elle avait un cancer triple négatif.
Eh bien, je n'avais pas de signe avant-coureur. Ça m'est tombé dessus en mars 2015, lors des vacances, un tout petit peu avant les vacances de... pendant les vacances de février, pardon. Et je devais faire une visite banale de contrôle après la naissance de ma fille qui avait 18 mois. Je m'étais dit, bon, j'ai un petit peu de retard, on va faire le suivi gynécologique. Et quand je suis allée consulter ma gynéco, voilà, elle a retrouvé des ganglions sous le bras. Non, pas dans le sein, parce que c'était tellement petit. C'était pas décelable, donc mais bon, ça lui a mis ça l'a mis en alerte. Donc du coup s'en est suivi un examen rapide de mammographie, échographie, de là on a prospecté pendant presque 1h30 parce que rien n'était décelable au niveau du sein, mais on a finalement trouvé un tout petit nodule, et donc on m'a prescrit donc une ponction pour analyser, et là ça m'est tombé sur la tête, on a donc décelé un cancer du sein triple négatif. Chose que j'ignorais complètement, ma maman est déjà, a déjà eu un cancer du sein, qui était un cancer du sein hormonodépendant, donc moi le triple négatif c'était le grand inconnu. Et ça a été la grosse douche froide, mon mari m'avait accompagné le jour des résultats, et je pense que c'est lui qui a pris toutes les informations, parce que moi quand ça m'est tombé dessus, je n'entendais plus rien, j'ai sombré dans un grand trou, et c'est lui qui a cherché un peu autour en se demandant qu'est-ce que c'est que le triple négatif. Voilà.
Alors jusqu'à présent, comment avez-vous été soignée ?
Alors depuis mars 2015, j'ai suivi, on va dire, la procédure classique, c'est-à-dire des chimiothérapies, donc 6 cures de chimiothérapie qui sont données classiquement aux femmes qui ont un cancer du sein, qu'ils soient triple négatif, hormonodépendant, c'est le traitement de base. Ensuite, la chimiothérapie a très très bien répondu, j'ai eu une réponse excellente. Et j'ai subi donc une mastectomie partielle, un curage axillaire au niveau du bras. Et ensuite, s'en est suivi 33 séances de radiothérapie. Et comme le stipule le triple négatif, ensuite on est lâché, on n'a plus de filet, c'est-à-dire à part une surveillance chez le médecin, chez le chirurgien, si on a envie d'y retourner, mais voilà, il n'y a plus rien. Les soins s'arrêtent là. Et sachant que c'était un cancer très agressif, j'ai décidé d'aller voir ma chirurgienne, ma gynécologique, tous les 2-3 mois, un suivi. Et ensuite, 7 mois après, on a appris que j'avais une récidive suite à des examens complémentaires. En fait, j'ai repris depuis août 2016, date de ma récidive. Donc, lors d'un TEP scan, on a vu que ça s'était métastasé ailleurs. Et on m'a annoncé que ça serait de la chimiothérapie à vie. Donc voilà, autant la première fois, ça a été forcément dur, mais après on s'en va, on part dans la bataille, on sait très bien, on se dit on va s'en sortir, et il y a pas de raison que là on se dit, ben voilà, est-ce qu'on va s'en sortir, parce qu'on sait très bien que ce cancer a un pronostic très 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 sombre à l'heure actuelle. Comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de femmes, quand même 40% récidive de ce cancer, et on sait que les statistiques nous laissent présager qu'on a à peu près 15 mois de survie. Moi j'en suis à 34 je crois actuellement, 32 ou 34, et donc je sors des statistiques actuellement, et donc j'ai repris les chimios depuis août 2016, et j'en suis arrivée plus de 100 là maintenant à l'heure actuelle.
Alors l'Institut Curie qui vous suit justement a essayé également hein, de ralentir la maladie. Comment ça s'est passé avec cet institut?
Donc en fait je prospectais beaucoup sur internet pour essayer de trouver une solution parce que bon ça faisait 2 ans que j'étais en chimio continue. Comme c'est un cancer qui est chimio résistant, j'ai fait 6 lignes de chimio consécutives et à chaque fois on changeait de ligne de chimio parce qu'on voyait que le cancer continuait à progresser sournoisement. Et donc j'ai cherché sur internet et dans les grands pôles, c'est-à-dire Gustave Roussy, Institut Curie, qui sont des références en matière de soins du cancer, et j'ai vu qu'il y avait un essai qui était proposé. Donc j'ai moi-même fait ma demande, monté mon petit dossier, je l'ai envoyé, j'ai eu une réponse en me stipulant que je pouvais pourvoir à ce traitement, que j'étais une candidate potentielle. On m'a fait passer donc des examens pour voir cliniquement si je pouvais le supporter aussi, et donc j'ai été tirée au sort dans le groupe, puisqu'il y a toujours un groupe placebo et un groupe qui a le traitement, et j'ai été tirée dans le groupe qui a pu bénéficier de cet essai clinique. Depuis août l'an dernier, en fait, en août 2018, ça fait un an maintenant, un peu plus d'un an, que je suis suivie à Pierre et Marie Curie. Alors autant au début, premier scanner, très très bon résultat, hein, 30% de diminution des ganglions, et puis malheureusement, ça s'est stagné. Bon, on avait espoir et les 2 derniers scanners ont montré une évolution. Donc, on connaît un petit peu la chanson, hein, moi et mon mari. On sait que quand ça progresse, ça va poursuivre son chemin, malheureusement, dans ce sens-là.
Fin août, début septembre, l'Agence nationale de sécurité du médicament autorise à titre expérimental sur le marché 2 nouveaux médicaments traitant les cancers du sein. L'un d'eux, l'atezolizumab, cible directement les cancers triple négatifs et il s'agit d'un traitement par immunothérapie. Laurine Lefebvre m'explique ce qui se passe ensuite.
Mes enfants étaient autour de moi, je pleure de joie en me disant « ça y est, ça fait à peu près 3 ans que j'attends ». On entend parler beaucoup de l'immunothérapie pour beaucoup de cancers, qui est vraiment une promesse d'espoir, un traitement qui est une grande promesse d'espoir. Et voilà, on appelle tout le monde, on passe des coups de téléphone, on annonce la bonne nouvelle. Et puis en fin de journée, j'apprends que ce traitement ne m'est pas accessible. Ce traitement qui était au départ un essai, dans lequel je ne pouvais entrer puisqu'il fallait avoir récidivé 12 mois après son premier cancer. J'ai récidivé 7 mois, donc un peu trop tôt. Et là, j'apprends qu'il est mis sur le marché, mais que je ne peux pas y pourvoir parce que j'ai subi trop de chimio depuis ma récidive. La condition, il y a plusieurs conditions. Il faut être triple négatif, métastasé, inopérable, ce qui est mon cas. Mais il ne faut pas avoir subi de chimiothérapie depuis ma récidive, c'est-à-dire en août 2016. Si je n'avais pas subi toutes ces chimios, je ne pourrais pas vous parler à l'heure actuelle à l'antenne.
Alors, ce traitement, l'atezolizumab, traitement par immunothérapie, c'est quelque chose qui a été découvert très récemment. Hein, les gènes, le gène concernant la cause hein, de ce cancer du sein, cancer du sein triple négatif, a été découvert en 2015. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des recherches au niveau de ces traitements actuellement. Vous avez même pétitionné, je crois, en juillet auprès du ministère de la Santé pour réclamer la généralisation de ces traitements. Quelle a été la réponse du ministère? Est-ce que vous en avez une?
Alors oui, on en a une. On va dire la réponse classique est très très procédurière, c'est-à-dire nous avons bien reçu votre courrier. Madame la ministre n'a pas le temps de est débordée, n'a pas le temps de s'occuper de cette affaire, mais elle transmet au directeur de la santé. Voilà, ça a été un courrier concis et clair et je pense très très administratif.
Laurine Lefebvre décide alors de se tourner vers la seule solution qu'elle a trouvée pour tenter de soigner son cancer triple négatif, un traitement par immunothérapie également, mais en Allemagne et au coût très élevé, 95 000 euros. Laurine Lefebvre.
Je l'ai découverte par le biais également d'Internet, en fait, à force de chercher, de prospecter, de fouiller souvent. Sur le monde d'internet, j'ai vu que d'autres dames avaient tenté cette expérience allemande par le biais également de cagnottes dont je parlerai tout à l'heure et par le biais aussi de la presse. Elles avaient essayé de faire connaître un petit peu la problématique du triple négatif et donc j'ai pu consulter les articles et je me suis mise en contact avec elles par le biais de Facebook et on a commencé à discuter, à échanger. J'ai commencé à prendre des informations et on a décidé d'ailleurs de monter une vidéo en ligne pour mettre en valeur les doléances des triplettes, comme on s'appelle maintenant, et pour essayer de, voilà, essayer plus qu'essayer, on veut promouvoir l'accès de ces traitements en France, et d'où notre lettre que nous avons déposée à Madame la Ministre de la Santé pendant le mois de juillet. Et en fait, voilà, quand j'ai vu que les scanners progressaient, moi j'attendais tellement, j'avais tellement d'espoir par rapport à ce traitement, et comme je dis, la course contre la montre est lancée, hein, c'est une grande promesse, c'est très prometteur, c'est super pour toutes les dames qui pourront bénéficier, mais toutes les dames qui sont dans la même situation que moi, on a l'impression, sans vouloir être cynique, mais qu'on nous laisse derrière la porte. Et voilà, qu'est-ce qui nous attend après derrière? Ça fait un an que je suis en réflexion par rapport à ce traitement en Allemagne. Et au regard des deux scanners, je me suis dit, on y va, on fonce, on n'a plus de temps à perdre.
Alors justement, cette solution, est-ce que cette solution que vous avez trouvée en Allemagne est similaire au traitement dont vous auriez peut-être pu bénéficier en France? Et est-ce que c'est cette raison qui suscite du coup aussi votre incompréhension envers notamment l'Agence nationale de sécurité du médicament?
Tout à fait, c'est une solution quasi similaire, puisque l'Allemagne, donc une clinique, je ne généralise pas, c'est une clinique allemande privée qui me propose ce traitement. Donc l'association d'une immunothérapie associée à une chimiothérapie, la chimiothérapie sera effectuée en France, donc dans mon centre de soins, et les Allemands rajoutent une troisième option que la France ne propose pas. On est encore très loin. D'ailleurs, on se bat les triplettes aussi pour que ça soit généralisé en France, c'est la vaccinothérapie. Donc en fait, c'est la synergie des trois, chimiothérapie, immunothérapie, vaccinothérapie, qui est vraiment prometteuse de signes de rémission partielle, voire complète.
Vous me disiez, oui, une des personnes que vous connaissez, qui est également atteinte du même cancer que vous, a déjà expérimenté ce traitement en Allemagne aussi, hein, je crois.
Hein, oui, tout à fait.
Et elle montre effectivement des signes de rémission. Hein.
Tout à fait. Les quatre dames avec qui je suis en relation, l'une d'elles est en rémission complète. Deux sont en rémission complète. Et pourtant, leur état de santé était vraiment alarmant, très alarmant. Et elles avaient subi plusieurs lignes de chimio, puisqu'en fait, nous pensons toutes les triplettes, effectivement, que la France, pour l'instant, nous refuse ces traitements, dans le sens où ils pensent que la combinaison de l'immunothérapie associée à de la chimiothérapie ne serait pas efficace pour des patientes qui ont subi autant de lignes de chimio que nous. Or, l'expérience montre que ces dames, qui ont eu des lignes de chimio aussi importantes, certaines même plus que moi, certaines sont en rémission complète ou partielle. Donc c'est vraiment un grand signe d'espoir, ce traitement proposé en Allemagne, qui est similaire, comme je vous le disais, sauf la vaccinothérapie qui est rajoutée en plus. Et c'est vraiment en fait aussi important de signaler, le médecin allemand propose vraiment aussi un traitement à la carte au niveau de la vaccinothérapie. On est vraiment, il y a une analyse qui est très complète au niveau de la cellule cancéreuse. En France, on se base sur trois critères pour analyser une cellule cancéreuse, et là on va beaucoup plus loin. Donc forcément, le traitement est affiné par rapport à votre triple négatif. Il y en a des différents aussi, selon vos... Voilà. Donc c'est vraiment un traitement à la carte.
Alors, vous avez, suite à cela, décidé de faire une cagnotte pour pouvoir avoir la possibilité de vous rendre en Allemagne afin de pouvoir bénéficier de ce traitement. Un traitement très cher, hein, 95 000 euros. Qu'est-ce qui vous a décidé à mettre en place cette cagnotte, hein? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez mis un an à vous décider.
J'ai mis un an à me décider parce que je me disais déjà, d'une part, comment récolter cette somme? Ça me semblait tellement pharaonique et impossible. Et donc, je me suis dit, bon, c'est tout, c'est impossible. Mais ces dames m'ont motivée, m'ont dit, tu vas voir, quand tu vas lancer la cagnotte, il y aura une énorme chaîne qui va se former. En plus, il y a un métier quand même très social, et j'étais enseignante, donc beaucoup de contacts, etc. Et effectivement, depuis trois semaines, un mois qu'on a lancé la cagnotte, on est emporté dans cette vague de solidarité qui nous fait un bien fou à moi et à ma famille, qui nous porte. Et donc, on se dit en fait que tout est possible, que tout est possible. Et on y croit, et on y croit, même si la somme, effectivement, est très, très, très élevée.
À l'heure où je réalise ce reportage, Laurine avait récolté 15% de la somme nécessaire pour réaliser son rêve. Si vous souhaitez la soutenir, rendez-vous sur la page Facebook le-rêve-2-Laurine, où vous trouverez le lien vers la cagnotte.
C'était un sujet de Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà donc pour ce sujet. Dans quelques instants, on reprend avec l'actu du département du Pas-de-Calais. Et tout de suite, c'est Mylène Farmer avec M'effondre en version live sur Radio Plus. Farmer avec M'effondre en live sur Radio Plus. Tout de suite, l'actu du département. Avec un mouvement festif, mais également un mouvement de célébration à les fêtes de la Sainte-Barbe qui se déroule jusqu'au 8 décembre dans l'agglomération de Lens-Liévin. Il y a plusieurs choses à ne pas manquer. Toutes les infos, vous les retrouvez sur le site internet dédié, le www.fetedebarbara.com, également sur la page Facebook Fête de Barbara. Le lundi 9 décembre prochain, l'association Océale de Courcelles-lès-Lens organise à la salle des fêtes Marcel Couture une rencontre à l'occasion de la journée nationale de la laïcité. Avec au programme des caricatures et scénettes réalisées par de jeunes Courcellois et par Leïla Amara, comédienne, ainsi que Benoît Oren, caricaturiste. Et ensuite une pièce de théâtre intitulée « Allons enfants, etc. » Avec la compagnie On Imagine, un spectacle sur les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité. L'entrée est gratuite. L'ouverture des portes, c'est à 17h45. Les infos, c'est au 03 21 40 44 13. 03 21 40 44 13, c'est le numéro de téléphone de l'association Océal. Le département du Pas-de-Calais se prépare à nouveau, comme en 2012, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, prévus, vous le savez, à Paris. Un engagement du département qui passe par la présence d'athlètes ambassadeurs qui contribuent tout au long de l'année à la dynamique du mouvement sportif au sein du département. Deux labels ont été mis en place par le département. Il s'agit de Terre de Jeux 2024, destiné à structurer le mouvement sportif et à faciliter les retombées des Jeux Olympiques, et Génération 2024, un label destiné aux établissements d'enseignement qui mettent en place des projets pédagogiques et éducatifs en lien avec les Jeux Olympiques. Et il y aura donc des parrains pour ces établissements scolaires, des sportifs de l'équipe olympique et paralympique du Pas-de-Calais, sur la possibilité pour les élèves qui participent à ces projets de rencontrer des athlètes de haut niveau du département. Allez, tout de suite, on écoute, un groupe de la région Old Trees qui est passé dans Maintenant J'y vais il y a quelques temps. Voici un extrait de leur album One is the Color sur Radio Plus. Groupe All Trees sur Radio Plus avec One is the Color, extrait de leur dernier album. Allez, tout de suite, on reprend avec l'actu du département. et le département qui s'engage contre les violences faites aux femmes et qui a mis en place un plan de lutte contre ces violences, un plan mis en place parallèlement aux annonces du gouvernement lors des conclusions du Grenelle national contre les violences conjugales. Lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre dernier, 200 personnes étaient réunies à Arras pour la présentation de ces mesures qui seront mises en place au cours des 3 ans à venir dans le Pas-de-Calais. Parmi ces mesures, la formation des professionnels et la création de réseaux de personnes ressources et de procédures simplifiées. Autre objectif, améliorer l'accueil, la protection et l'accompagnement des victimes en parallèle du repérage des situations à risque. Et côté auteur des faits, des moyens qui vont être revus à la hausse pour les responsabiliser et éviter les risques de réitération de ces violences. Et sachez qu'au niveau de ce plan départemental, l'accent est mis sur la prévention. Au-delà évidemment de la répression et de la prise en charge des victimes, l'enjeu pour les 3 ans à venir pour le département est de sensibiliser et d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge, mais aussi les adultes, notamment dans la sphère professionnelle, pour combattre le mal à la racine. Et donc évidemment, s'il est difficile pour le département de faire des généralités à propos des hommes auteurs de violences conjugales, il y a pour tous à l'origine, d'après le département, des représentations sexistes. Allez, on va terminer cette émission avec Chris Cab sur Radio Plus et Liar Liar. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes du 104.3, également en DAB+, si vous avez la chance de nous recevoir sur ce support. Dans quelques instants, le Flash Info suivi des routes de l'accordéon.